tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Ça vient pas de nulle part.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Radio Grenouille, ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une petite histoire de la protection sociale.
Dans les années 30, les ouvriers continuaient de travailler tant qu'ils le pouvaient, puisqu'ils n'avaient pas de couverture sociale. Il y avait aucune possibilité de s'arrêter. On s'arrêtait quand on pouvait vraiment plus. Et j'ai eu, entre autres, ma belle-mère qui était obligée, blanchisseuse de son métier, à continuer à repasser pour les gens chez elle, entre deux crises d'asthme, pour pouvoir avoir de quoi manger. Les gens allaient jusqu'au bout de leur force, jusqu'au bout de leur santé. Et après, il n'y avait plus qu'à l'hôpital, où on allait non pas pour guérir, mais pour se soigner. Et rarement pour en sortir.
C'est dans un film tourné par le Parti communiste en 1982 qu'une vieille dame se rappelait le temps d'avant. Le temps d'avant le système de retraite, d'avant l'assurance chômage, d'avant la sécurité sociale. On l'oublie souvent, mais pendant des siècles, l'État ne s'est pas préoccupé du sort des malheureux. Ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'ombre de la France occupée, que le Conseil national de la Résistance allait jeter les bases de notre système de solidarité publique. Ce filet de sécurité, rappelons-le, fut conçu pour protéger chaque citoyen contre les aléas de la vie et contre l'âpreté de l'économie de marché. Pourtant, ce modèle social est la cible de nombreuses critiques depuis longtemps. Il coûterait trop cher et il serait trop généreux. Tellement généreux qu'il gâcherait l'argent du contribuable pour subventionner des assistés, des fraudeurs qui mèneraient grand train sans jamais travailler. En fin d'émission, nous irons à Grenoble pour rencontrer Philippe Varin. Ce chercheur du CNRS a créé l'Observatoire du non-recours aux aides sociales. Il nous expliquera qu'en France, des millions de personnes ont droit à des prestations qu'elles ne réclament jamais. Le montant ainsi économisé par les caisses est largement supérieur à celui de la fraude. Avant cela, nous serons allés au musée de l'assurance maladie à côté de Bordeaux. Emmanuel Saujon, la responsable du lieu, nous racontera une histoire de la protection sociale en France du roi Henri IV à nos jours. Mais tout de suite, nous partons dans le 2e arrondissement de Marseille, devant la Caisse des allocations familiales. C'est cet organisme qui verse le RSA et l'aide au logement. À Marseille, où le chômage et la pauvreté font rage, une partie de la population ne vit que de ses prestations. Dans les Bouches-du-Rhône, on compte près de 400 000 allocataires, dont 205 000 rien que sur la ville de Marseille. 40% d'entre eux ne vivent que de ces prestations sociales. Juliette Palmade a été ma complice pour préparer cette émission. Elle se trouve à mes côtés dans ce studio. Et le 2 février dernier, elle est allée faire traîner son micro devant la CAF de la rue Malaval, dans la file d'attente.
Là, je suis venue parce que je n'ai pas payé pendant 4 mois. J'ai un enfant, moi. J'ai un enfant, je ne suis pas seule. J'ai un enfant de 4 ans qui va à l'école, qu'il faut que je l'assume. Et maintenant, voilà, j'ai rien.
Ça fait 2 ans que je ne vais pas venir ici. Après, ils m'ont la lettre et m'ont coupé la location de logement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais en stage, j'ai fini le stage hier, vendredi. Et maintenant, je suis en galère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ils m'ont coupé. Il faut que je paye tout maintenant. Là, je touche 600 euros, 680, c'est l'impayé qu'ils me le donnent. Comment je vais vivre?
Et quand vous les appelez ou quand...
2 heures pour répondre au téléphone, je ne peux pas appeler.
Oui, 2 heures pour répondre au téléphone, une longue file d'attente à l'entrée. Contacter la CAF des Bouches-du-Rhône, ça n'est pas vraiment une partie de plaisir, Juliette. Au printemps dernier, ça l'était encore moins, puisque la CAF était en manque d'effectifs, les dossiers s'entassaient. Et les retards s'accumulaient tellement que la direction avait décidé de fermer tous les accueils pendant 8 semaines, de manière à ce que les employés puissent se consacrer au traitement des dossiers. Depuis, les accueils ont réouvert, Juliette.
Oui, les accueils ont réouvert, enfin presque, et pas tous. Le 26 novembre dernier, la CAF des Bouches-du-Rhône invitait la presse à une visite intitulée « Dans les coulisses de la CAF ». Une visite qui avait pour but d'expliquer la nouvelle organisation de l'accueil physique. Aline Rouillon, sous-directrice en chef du service aux allocataires, nous a expliqué le pourquoi de cette nouvelle organisation.
On avait effectivement du mal à répondre dans des délais satisfaisants à nos allocataires, puisqu'on avait des délais de traitement qui étaient... long et pas satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle nous avons opéré des changements, notamment à l'accueil, pour pouvoir à la fois renseigner nos allocataires qui se déplaçaient, mais aussi mobiliser nos équipes qui sont des professionnels du traitement des dossiers prestations familiales, donc avec une expertise métier, qui sont aujourd'hui beaucoup plus recentrés sur le traitement des dossiers.
Recentrer sur le traitement des dossiers, en fait, ça veut dire que la CAF a complètement revu son organisation interne.
Oui, effectivement. Pour gérer au mieux les usagers qui se déplacent jusqu'au CAF et le traitement des dossiers, la nouvelle organisation est divisée de la manière suivante. En premier, il y a l'espace borne. L'usager a accès au portail internet de la CAF. Il est aussi possible de se faire accompagner par ce que l'on appelle un CSU, un conseiller de service à l'usager, pour utiliser la borne. Ici, on peut déposer un dossier en vérifiant s'il est complet ou pas et être orienté vers un interlocuteur social si besoin est. Ensuite, il y a le back-office. C'est là où sont traités les dossiers. Et enfin, et ce dont la CAF est très fière, l'accueil sur rendez-vous. Mais ici, ce qui pose problème dans cette nouvelle organisation, c'est que lorsque l'on se rend sur place à l'improviste, c'est la croix et la bannière pour voir quasi impossible pour voir une personne qui a accès à votre dossier et au logiciel de traitement. Et pour expliquer pourquoi vous rencontrez tel ou tel problème. Désormais, pour cela, il faut prendre un rendez-vous.
Venir à la CAF, c'est pas toujours facile de s'organiser. Donc l'accueil sur rendez-vous, ça répond aussi à une demande d'un grand nombre de nos allocataires. Un temps privilégié, j'attends pas, mon dossier est préparé en amont. Enfin, c'est aussi cette offre de service-là qui est importante.
Alors en effet, l'accueil sur rendez-vous, ça peut être une solution intéressante pour certains. Mais cette réorganisation des accueils de la Caisse des allocations familiales, eh bien, elle ne fait pas l'unanimité. Il y a même un collectif qui s'est créé contre ça, c'est le collectif anti-fermeture des CAF, Juliette.
Oui, le collectif anti-fermeture des CAF s'est créé à la suite de la fermeture des accueils l'année dernière. Il regroupe divers militants de plusieurs associations et de mouvements politiques de gauche. Depuis plusieurs mois, ce collectif lutte pour la réouverture des CAF. J'ai donc rencontré Elissa, une militante de ce collectif, qui m'a parlé, entre autres, des conditions d'accueil.
Et est-ce que 3 CAF sur une ville comme Marseille qui fait 900 000 habitants, c'est suffisant ?
Ah oui, non, mais c'est clair que non. Et puis que du coup, là, il y avait rue d'Oran, rue du Berceau, enfin toutes les CAF de centre-ville, c'est plus que sur rendez-vous. Et il y a des moments où ils oublient qu'ils ont donné des rendez-vous, du coup, ils descendent pas chercher les allocataires. Du coup, tu passes devant la rue d'Oran, tu vois 10 personnes qui ont des rendez-vous et que personne n'est venu chercher, quoi. Enfin, c'est un gros foutage de gueule. Là, il y a la maréchaussée qui arrive. Voilà. Ah non, c'est pas pour nous. Exceptionnellement.
La police, la sécurité de la CAF, le collectif anti-fermeture a déjà eu quelques soucis avec. Il y a d'ailleurs, je crois, des manifestations qui se sont terminées au poste. La direction de la CAF, elle, cherche à culpabiliser le collectif en l'accusant de ralentir le traitement des dossiers en multipliant les manifestations. Cependant, ces mêmes manifestations ont permis à plusieurs reprises d'accélérer le traitement de dossiers qui étaient bloqués depuis plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit, pour éviter de se déplacer, la CAF incite maintenant ses usagers à faire leurs démarches par Internet.
Oui, tout à fait. Internet est le nouvel outil de la CAF qui permet de gagner du temps.
Si votre dossier n'est pas complet quand vous le saisissez sur Internet, vous le savez tout de suite. Le CAF.fr vous dit bah, « vous n'avez pas fourni votre montant de loyer ». Donc l'information, vous allez la chercher, vous allez la mentionner tout de suite. L'envoyer papier, ça arrive à la CAF, le dossier n'est pas complet, il faut qu'il soit pris en charge, il faut qu'il soit traité. Il est retourné ou on rappelle. Donc ça génère des délais.
Bon, donc l'avenir, hein, c'est Internet.
Oui, mais non, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet à Marseille.
Est-ce que vous faites les démarches sur Internet? Parce qu'ils parlent de...
Non, je ne sais pas utiliser l'Internet. Ma fille, elle habite loin, un peu plus loin de moi. Mon fils aussi.
D'accord.
Je suis tout seul à la maison.
D'accord.
Mes enfants, ils sont mariés, ils sont grands.
D'accord.
Pour faire les démarches, je ne sais pas. Je ne suis pas utilisée l'Internet.
Bon, alors on comprend en écoutant cet extrait hein, qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de se rendre physiquement à la CAF.
Et oui, mais le souci c'est que depuis la réorganisation de l'accueil à Malaval, les allocataires doivent attendre dehors, et ça, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Les conditions d'attente, parce que d'attente il y en a, et parfois même beaucoup, sont déplorables. On laisse les personnes attendre dans la rue, parfois même pendant des heures.
Une fois, je suis venue à 6h
du matin. Non, avant, ça allait plus vite. Quand il n'y avait pas le mur de séparation, ça allait plus vite parce qu'on rentrait tous, on s'assiait, on avait tout le numéro, on l'attendait, mais on était assis.
Au moins, on passait avec le numéro.
Voilà, même s'il pleuvait, on était couverts. Mais depuis qu'ils ont fait leur mur, c'est la merde complète.
Et puis même maintenant, c'est même pas des gens qui peuvent régler ton problème. C'est des gens qui peuvent juste te dire « reviens dans une semaine ».
Voilà, moi, ils ne vont pas
venir. Ils peuvent rien faire, voilà, ils peuvent juste te dire « reviens dans une semaine voilà. ». Ou alors,
voilà, là, l'ordinateur qui te dit que c'est pas revenir dans une semaine.
Ouais, faire attendre les gens sous la pluie, ça a l'air moins sympathique tout de suite.
Et oui, mais d'après la direction de la CAF, la réorganisation de l'accueil a quand même permis de réduire les délais de traitement des dossiers. Cependant, selon les chiffres que j'ai obtenus de sources syndicales, la situation s'est loin d'être améliorée. En janvier 2014, il y avait environ 104 000 pièces et autres dossiers à traiter en retard. En 2015, à la même époque, ils sont au nombre de 130 000, soit 26 000 de plus. Et si l'on en croit le collectif anti-fermeture, il y a aussi pas mal d'effets secondaires et non négligeables.
Nos techniciens experts sont majoritairement mobilisés sur le traitement des dossiers et dans 65% des cas, on répond sous 15 jours. Le traitement est opéré sous 15 jours.
Et les autres ?
Les autres, actuellement, les dossiers les plus en retard, les dossiers où les délais de traitement sont les plus longs, nous sommes entre 5 et 6 semaines à ce matin.
Pourquoi vous êtes ici ?
Pour moi, pour tirer une attestation.
D'accord.
Regarde la queue qu'il y a. Pour une attestation.
Et du coup, ce qui est clair, c'est que depuis qu'ils ont fermé les CAF, du coup, ils ont traité ce qu'ils appellent traiter plein de dossiers. Et il y a une augmentation de radiation sans motif, mais qui est incroyable, quoi. Du coup, avec suppression d'APL, où la CAF réclame des indus, mais complètement délirant de demander aux gens de leur rembourser 3000 euros sur des gens qui sont RSA. Enfin, voilà, il y a eu clairement une augmentation des radiations inexpliquées, où tu reçois pas de lettres. Puis les trucs de ouf, où les gens, ils renvoient des dossiers, la CAF, elle les perd, ils renvoient des dossiers, la CAF, elle les perd, ils renvoient des dossiers, la CAF, elle les perd, ils vont les poser dans les boîtes aux lettres sont pleines, ils vont aux bornes, les bornes, elles sont cassées. Enfin, il y a vraiment un truc.
Et vous, clairement, vos revendications, c'est quoi ?
La réouverture des CAF. La réouverture des CAF, la gratuité du numéro.
La gratuité du numéro, parce que c'est payant de téléphoner à la CAF ?
Tout à fait. L'appel coûte 7,08 centimes d'euros et la minute ensuite 2,08 centimes. Le coût varie selon donc entre le temps d'attente et l'opérateur. Mais en faisant un petit calcul, on se rend compte que si on attend 5 minutes, ça nous coûte 17 centimes d'euros, 10 minutes 28 centimes et 30 minutes 69 centimes. Mais on peut quand même se poser la question de la violence symbolique de faire payer un appel vers un service public.
Oui, et au fait d'ailleurs, que pensent les salariés de la CAF de cette nouvelle organisation ?
Alors, j'ai eu un long entretien avec le secrétaire général de la CGT CAF 13, M. Lionel Zawati, qui m'a parlé de la situation vue de l'intérieur. Il m'a bien précisé que la situation de la CAF des Bouches-du-Rhône est à replacer dans un contexte de casse du service public, que ce soit à la caisse des allocations familiales, à la sécurité sociale ou ailleurs. D'ailleurs, le langage interne de la CAF a changé. Dans les documents institutionnels élaborés par la direction, on ne parle plus d'usagers, mais de clients.
Oui, donc on peut deviner que pour la CGT, la nouvelle organisation n'est absolument pas adaptée au contexte local.
Oui, mais ce n'est pas les nouveaux outils qui sont mis en place qui ne devraient pas exister. L'accueil sur rendez-vous et Internet répondent bien à des besoins, mais ceux-ci ont été mis en place pour remplacer l'accueil physique et non pas en complément de celui-ci. Ensuite, concernant le nouveau métier créé lors de la réorganisation, les CSU, conseillers de service à l'usager, qui sont là pour accueillir et aider les allocataires à se servir des bornes automatiques. Ce métier est également complètement inadapté à la situation. Selon la CGT CAF 13, on retrouve des personnes formées en quelques semaines seulement face à un public qui attend des réponses précises à leurs questions.
Oui, des réponses que les CSU ne peuvent malheureusement pas apporter.
Et non, vu le contexte de précarité, le nombre d'allocataires, le peu d'accueil ouvert, le non-accès au logiciel de traitement, ils ont des conditions de travail déplorables qui ne leur permettent pas de remplir leur mission.
Donc, Pour conclure.
Mais pour conclure, M. Zawati reconnaît qu'avant la réorganisation, il y avait d'énormes problèmes pour remplir les deux fonctions principales de la CAF, accueillir le public et traiter les dossiers. Mais cette nouvelle organisation ne répond pas aux besoins identifiés sur l'ensemble du territoire, que ce soit d'ailleurs à Marseille ou dans l'ensemble du département. Rappelons simplement que dans les Bouches-du-Rhône, des usagers doivent parfois faire des dizaines de kilomètres pour trouver un accueil ouvert. Donc ce que demande la CGT est tout simplement plus de moyens afin que la CAF puisse remplir sa mission de service public.
Des embauches, des moyens, est-ce que ce n'est pas le nœud du problème tout compte fait ?
Eh bien, c'est exactement ce que j'ai demandé en novembre dernier à M. Jean Chapelet, qui est l'administrateur provisoire de la CAF 13.
Et est-ce que vous estimez, en tant qu'institution, que vous avez les moyens de fonctionner, les moyens de mener à bien votre mission ?
Il y a un blanc, là.
Oui.
Ça dépend ce qu'on nous demande. Ça dépend ce qu'on nous demande.
Et c'était un blanc qui en disait long. Merci Juliette pour ce reportage. Une annonce pour terminer, je crois qu'il y a de l'actualité autour du collectif anti-fermeture.
Oui, il y a une manifestation de prévue mardi prochain, le mardi 17 février à 9h30. Rendez-vous au métro Bougainville.
Que j'allais pointer, il y avait une jolie fille juste à côté, et là nos regards se sont croisés, et depuis on ne s'est plus quitté. Depuis on reste tous les deux au lit, la grasse matinée jusqu'à midi. C'est ça le bon côté du chômage, surtout qu'on a besoin d'amour à notre âge. À la NPE, à la NPE, il y a tout ce que tu veux. À la NPE, à la NPE, il y a tout sort du boulot, mon vieux. Un beau jour que je vais voir l'autre comique, il me dit pour vous, j'ai du boulot. Moi qui ne savais pas faire cuire une frite, il voulait me mettre comme cuistot. Et moi tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, un beau jour que je vais voir l'autre cinglé, moi qui ne sais pas ce que c'est qu'un robinet, il voulait me placer comme plombier. Alors là mon vieux, à la NPE, à la NPE, il y a tout ce que tu veux. À la NPE, à la NPE, il y a tout sort du boulot mon vieux. À la NPE, à la NPE, à la NPE, à la NPE.
Oui, oui.
À la NPE, c'était Serge Fontaine en 1982. Vous écoutez Radio Grenouille, ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, nous tentons une petite histoire de la protection sociale. Et pour ce faire, nous sommes allés jusqu'à Bordeaux. Bordeaux, ou plus précisément Lormont, une petite bourgade de la région bordelaise, pardon, où nous avons découvert un lieu étonnant, le musée de l'assurance maladie. Je vous propose donc de remonter le temps en compagnie d'Emmanuelle Saujon. Elle est docteur en histoire du droit et elle est la responsable de ce musée de l'assurance maladie. Emmanuel Saujon, l'histoire de la protection sociale, c'est une très longue histoire qui commence, je crois, dans l'Antiquité.
Oui, les hommes très tôt ont compris qu'il fallait s'entraider pour faire face aux aléas de la vie et combattre contre les risques sociaux. Et très tôt, donc, ils ont cherché à s'organiser. Et c'est vrai que dès l'Antiquité, on en a une preuve ici, il y a des choses qui vont être mises en place, notamment une prise en charge par des communautés, des rites funéraires pour l'un de leurs membres. Voilà. Donc ici, on a une pierre tombale qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, où il y a des inscriptions latines. Il est en effet indiqué qu'elle marquait l'emplacement de la tombe d'un esclave grec qui s'appelait Hermogène, qu'il est mort à 35 ans. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est d'apprendre que ce sont ses compagnons esclaves, émancipés, qui se sont cotisés pour lui offrir cette stèle funéraire et donc lui permettre d'avoir des funérailles décentes.
Depuis longtemps donc, les hommes se préoccupent du sort de leurs prochains. Mais cette solidarité n'a encore rien d'organisé. Et pendant tout le Moyen-Âge, en France, l'État s'en désintéresse presque complètement.
Quand on doit s'occuper des malheureux, c'est plus sous l'angle de la répression. On cherche à enfermer les miséreux parce qu'ils nuisent à la société. On les considère comme des fléaux. Et on laisse la plupart du temps aux communes ou vraiment à l'Église, dont la mission est de s'occuper des plus pauvres, bah, de se charger finalement de faire de l'assistance. Voilà. Il n'y a pas de mesure encore, on va dire, significative de l'État pour s'occuper des plus défavorisés. La première, on va dire, mesure significative, ce sera sous Henri IV en 1604, où il prendra un édit pour protéger les mineurs de fonds contre les accidents du travail, en mettant en place une prise en charge de ces accidents du travail par le Trésor royal.
69 ans plus tard, en 1673, Colbert reprend l'idée d'Henri IV. Le plus célèbre ministre Louis XIV s'intéresse, lui, au sort des marins de la marine royale.
L'idée, c'était pareil, de mettre en place une sorte de protection sociale pour cette marine, composée d'une prise en charge des accidents du travail, d'une pension d'invalidité, d'une pension vieillesse, c'est-à-dire d'une retraite, et d'une sorte d'assurance maladie en faisant construire deux hôpitaux, l'un à Toulon et l'autre à Rochefort, où les marins pourront recevoir des soins médicaux gratuits. Tout ceci en mettant en place un nouveau système de financement pour l'époque, rejetant l'impôt et en mettant en place les premières cotisations sur la solde des marins.
Puisque l'État reste globalement défaillant, il faut organiser la solidarité sans lui. Au sein des villes, les corporations se prennent en main. Dans le milieu du compagnonnage, on crée une caisse commune où chacun peut verser selon ses moyens, épuisé selon ses besoins. Au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle. Le prolétariat urbain apparaît et dans ce milieu ouvrier vont se créer les premières sociétés de secours mutuel.
Les toutes premières vont vivre dans la clandestinité en raison de la loi Le Chapelier qui interdit toute forme d'association, de club, de réunion, de corporation, chose qui sera levée à partir de la moitié du XIXe siècle. Ces sociétés de secours mutuel, ce sont des associations dans lesquelles on rentre librement, volontairement, parce qu'on l'a choisi, il n'y a bien évidemment aucune obligation, il faut pouvoir avoir les moyens de verser la cotisation annuelle. Une fois que vous l'avez versée, vous devenez membre et vous avez surtout droit en contrepartie à une prise en charge du risque maladie, remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, et pour celles qui avaient le plus de fonds, parce que beaucoup d'adhérents, il pouvait y avoir une extension des risques couverts à la retraite, une somme de secours par exemple quand on était dans le besoin, etc.
Pendant ce temps-là, l'État est encore aux abonnés absents. Le droit du travail n'en est encore qu'à ses balbutiements, comme le rappelaient Olivier Duhamel et Jean-Noël Jeannonnet dans un documentaire diffusé sur France 5.
Le prolétariat urbain juxtapose ainsi des individus livrés au hasard des accidents et des maladies ou encore à la décision arbitraire d'un employeur. De fait, l'idée que l'État puisse protéger les travailleurs contre les brutalités du marché ne progresse que très lentement. Un décret de janvier 1813 avait interdit d'employer dans les mines les enfants de moins de 10 ans. Une loi de mars 1841 concerne leur travail dans les manufactures, usines et ateliers, et elle dispose...
Les enfants, pour être admis, devront avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés plus de 8 heures sur 24. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés plus de 12 heures sur 24.
Cette loi fut peu appliquée. En chacune de ces occurrences, les organisations patronales s'écrièrent qu'on allait les ruiner au profit de la concurrence étrangère. Dans ces conditions, le malheur profond ne peut être soulagé que par la charité individuelle. Celle-ci s'enracine dans toute la tradition chrétienne et elle s'incarne dans la pratique bourgeoise des bonnes œuvres fondée sur le libre arbitre de celui qui donne et la situation dominée de celui qui reçoit. À gauche, on y voit une manière de perpétuer en bonne conscience une hiérarchie sociale contraire au principe de la République.
Une gauche qui critique également le paternalisme patronal qui se développe à l'époque. Car dans certaines villes, les patrons fournissent tout à leurs salariés. Un emploi, un logement, une pharmacie, un hôpital et même une retraite. Mais en échange, il faut marcher au pas. Cependant, cette idée d'assurer un minimum de protection sociale à ses salariés pour doper la productivité, cette idée va finir par atteindre les États.
Le premier pays à réagir, ce ne sera pas la France, mais ce sera l'Allemagne, avec son chancelier Bismarck, qui créera dès la fin du XIXe siècle les assurances sociales obligatoires, seulement pour les salariés du commerce et de l'industrie, qui gagnaient en dessous d'un certain plafond de revenus. Pour les autres, ça restait facultatif.
C'est à peu près à cette époque que la France va finir par se réveiller elle aussi, avec la première loi d'envergure sur les accidents du travail, qui arrive très tard, c'est en 1898.
Avant cette loi, un ouvrier qui se blesse est obligé de prendre tout en charge, de prendre tous ses frais médicaux et chirurgicaux, bien évidemment quand il survit à son accident. Il peut toutefois réclamer auprès de son patron une prise en charge. La condition, c'est qu'il prouve que s'il s'est blessé, c'est de la faute de son patron. On imagine que techniquement, ce n'était pas évident, surtout qu'on est en plus en temps de paternalisme patronal où, en général, on ne réclame rien à son patron. La loi de 1898 viendra changer la donne en mettant en place un système favorable à l'ouvrier en ce qu'elle crée la responsabilité sans faute de l'employeur qui devient d'office responsable de tous les accidents du travail. Et ses employeurs devront dorénavant s'assurer auprès de compagnies d'assurance privées qui prendra en charge, dans la limite d'un forfait, tous les accidents du travail.
Dans les années 30, d'autres lois font leur apparition, je crois.
En 1930, enfin, en France, seront mises en place les assurances sociales obligatoires. C'est vrai qu'avant, il y avait eu la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes qui s'était révélée quand même un échec. Et de 1910 à 1930, malgré tous les projets de loi présentés à l'Assemblée nationale, rien n'avait abouti. 1930, et enfin, voilà, une victoire, on va dire, pour le progrès social. Donc sur le même modèle que Bismarck, on se retrouve avec des assurances sociales obligatoires que pour les salariés du commerce et de l'industrie qui gagnaient en dessous d'un certain plafond de revenus. Pour les autres, ça restait du facultatif. On jugeait qu'ils pouvaient faire de la capitalisation auprès des caisses d'épargne qui se sont développées à partir de la fin du XIXe siècle. Ce système, donc obligatoire, entraînait une cotisation pour l'employeur et pour le salarié. Et on était couvert contre cinq risques, maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès.
Cela dit, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le système est encore très incomplet et une grande partie des Français n'y a pas accès. En pleine occupation nazie, le Conseil national de la résistance se réunit dans la clandestinité. Il est composé d'hommes politiques, de syndicalistes et de représentants des grands mouvements de résistance. Il penche nettement à gauche puisqu'une bonne partie de la droite de l'époque a fait le choix de la collaboration. En mars 1944, le Conseil national de la résistance adopte un programme d'action à mettre en œuvre à la Libération. Ce projet prévoit notamment, je cite, « un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ».
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau. Dynamite.
qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit la liberté nous écoute.
Vous écoutez Radio Grenouille, ça vient pas de nulle part. Et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Saujon, responsable du musée de l'assurance maladie, pour évoquer l'histoire de la protection sociale.
On vient d'entendre les Stentors interpréter le chant des partisans, l'hymne de la résistance. Résistance dont le Conseil national va participer en 1945 à la mise en place effective de la sécurité sociale.
Un groupe de travail composé des membres du CNR, de la direction des assurances sociales, système qui est toujours en place, et composé également des partenaires sociaux, représentants des employeurs et des syndicats, vont se réunir et réfléchir à donner la substantifique moelle à cette sécurité sociale. Il faut savoir que pour ce faire, ils vont regarder ce qui se passe dans les pays limitrophes, hein, à côté. Hein. L'influence allemande, bien entendu, hein, qui reste quand même une influence depuis le 19e siècle, avec le système bismarckien, le système de l'assurance, avec un système qui est totalement connecté au monde du travail. On travaille, on cotise, et en contrepartie, on a droit à des prestations pour soi et sa famille. Et puis, notre système, qui sera le système anglais, développé par un économiste, Sir William Beveridge, en 1942, à la demande du gouvernement britannique. Système qui s'inscrira davantage vers le mécanisme de l'assistance, prévoyant une sécurité sociale pour tous, universelle, sans connexion au monde du travail et donc financée par des impôts.
Si on fait la différence finalement entre le système allemand et le système anglais, c'est que le système allemand ne s'adresse que aux personnes qui cotisent, alors que le système anglais est basé sur l'impôt et donc il s'adresse à tout le monde.
Exactement. C'est un système qui se veut universel et c'est ce qui a plu aux fondateurs de 1945.
Et donc en France, qu'est-ce qu'on va faire alors ?
En France, on va faire un système hybride mêlant système allemand et système anglais. Et pour être le plus simple possible, on va garder les principes de Beveridge, ces fameux principes des 3 U, universalité, unité, uniformité, un système pour tous dans un régime unique avec les mêmes prestations pour tous. Mais on n'a pas choisi l'impôt. On a voulu un système universel financé par des cotisations. Ce qui, en 1945, ne pose aucun problème, puisque nous sommes après la guerre et en période de plein emploi.
En 1946, le gouvernement tentera d'unifier le système de la sécurité sociale. C'est un échec et plusieurs catégories de population gardent leur propre régime. C'est le cas des agriculteurs, des mineurs ou encore celui des patrons. Néanmoins, le système fonctionne et 10 ans plus tard, le 18 avril 1956, à la télévision, les actualités françaises faisaient la promotion de la sécurité sociale.
Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit un vieil adage. Les statistiques, elles, prouvent qu'à Paris, une personne sur 10, qui est peut-être ce Parisien anonyme, est atteinte d'une affection qu'elle ignore. C'est à lui plus spécialement que par l'intermédiaire du courrier quotidien, la sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens, gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens, ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Parisiens, ne négligez pas cette facilité. Ce serait au risque de compromettre votre santé.
Prévenir, c'est guérir. Plus que jamais, cet adage est d'actualité.
Malgré l'enthousiasme du narrateur de ce film publicitaire, la protection sociale reste encore incomplète en France. On va y remédier petit à petit. La même année, en 1956, on crée le premier minimum social. C'est le minimum vieillesse. En 1957, c'est l'apparition du minimum invalidité. En 1958, une grosse faille est comblée avec la mise en place de l'assurance chômage. Trois ans plus tard, en 1961, Michel Brichoux est embauché en tant que dactylographe à la caisse primaire de l'assurance maladie de Besançon. Voici son témoignage.
J'ai effectué toute ma carrière donc, dans un pool dactylographique. J'ai travaillé donc, en dactylographie sur une machine Remington, j'ai travaillé sur une machine Olivetti, ensuite IBM, des IBM à boules. Disons plusieurs sortes de machines différentes puisqu'il y a quand même une certaine évolution du matériel. Je travaillais donc pour le service prestation. C'était la plus grosse activité de la caisse primaire, c'est-à-dire les décomptes. Il y avait donc beaucoup de cadres, de personnes responsables, et nous devions donc faire du courrier pour les assurer. Il manquait une pièce, enfin, pour différentes raisons. Et donc j'avais plusieurs cadres qui me donnaient leur courrier. Soit le courrier était écrit, quelquefois très difficile à lire, quand on ne connaît pas toujours le vocabulaire. On parlait de ticket modérateur, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, il y a plein de choses, parce qu'en définitive, je n'avais pas de formation sécurité sociale. C'était uniquement de la frappe.
À l'époque, l'informatique n'existe pas encore. La sécurité sociale, ce sera donc aussi un ogre bureaucratique, une véritable usine à gaz à la lenteur légendaire. Ses employés ont une réputation de traîne savate et des clichés dont Coluche se faisait l'écho en 1986 dans son sketch « L'administration ».
Combien vous croyez qu'il y a de gens qui travaillent à la sécurité sociale ? Hein ? 1 sur 4 et je suis large. La sécurité sociale, tout est assuré, sauf la pendule. Ça, on risque pas de nous la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. Hein ? Alors l'autre jour, une copine, je la vois qui part en avance, le patron lui dit « Non, vous partez en avance et vous êtes arrivé en retard aujourd'hui déjà. » Ah ben, dit justement, hein, je veux pas être en retard 2 fois dans la même journée. Hein. Ah dis donc, heureusement qu'ils sont pas dans le bâtiment, la sécurité sociale, hein, ils auraient les doigts pris dans le béton. Hein.
Et le public qui peut rigoler, car la protection sociale continue de se développer. En 1975, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est aussi la fin des 30 Glorieuses et le début du chômage de masse. Et c'est certainement pour cela qu'en 1988, pour la première fois, l'État met en place un mécanisme pour venir en aide à des adultes valides. Le président s'appelait François Mitterrand, le Premier ministre c'était Michel Rocard, et la mesure inventée s'appelait le RMI, qui deviendrait 21 ans plus tard le RSA. Mais voici comment le décrivait le journal télévisé de FR3 le 4 octobre 1988.
Le projet de loi sur le revenu minimum devrait faire la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Les députés RPR, UDF et URC envisagent de voter pour, tout comme le groupe communiste qui compte cependant obtenir quelques modifications. L'essentiel du contenu de cette future loi, Claude Guénot.
430 000 foyers devraient bénéficier du revenu minimum, soit environ 1 200 000 personnes. Il s'agit de familles ou d'individus marginalisés par le chômage, la maladie ou l'alcoolisme. Mais pas uniquement. Des accidents de parcours, notamment le divorce, plongent souvent des femmes et des mères de famille dans la pauvreté. Certains pré-retraités et agriculteurs sont aussi concernés. Le revenu minimum garantira 2 000 francs à une personne seule, 3 000 à un couple, plus 600 francs par enfant. Mais les allocataires ne percevront pas obligatoirement cette somme. Ce sera un différentiel qui viendra en complément de certaines ressources comme les allocations familiales. Le but, par exemple, pour un couple avec un enfant, est qu'en tout, le revenu atteigne 3 600 francs. En contrepartie, les allocataires devront s'engager à se réinsérer en suivant des stages de formation, par exemple. C'est le revenu minimum d'insertion, insertion à la charge des collectivités locales. Le revenu est assuré par l'État qui va y consacrer 6 milliards de francs en 89.
11 ans plus tard, le 1er janvier 2000, la boucle sera quasiment bouclée avec la mise en place des deux dernières mesures phares de la protection sociale. La CMU, couverture maladie universelle qui permet aux plus pauvres d'accéder aux soins de santé, et l'AME, l'aide médicale d'État qui remplit le même rôle auprès des étrangers sans papier. 55 ans après la création de la sécurité sociale, il était temps.
Ça vient pas de nulle part.
Vous écoutez Radio Grenouille, aujourd'hui une petite histoire de la protection sociale avec Emmanuel Saujon du musée de l'assurance maladie à Lormont, près de Bordeaux.
En 70 ans donc, la France a mis en place un système de solidarité publique assez exceptionnel. Mais cette grande construction collective s'est très vite heurtée à un problème de budget. Dès 1967, il a fallu commencer à réformer la sécurité sociale. Depuis, les plans d'ajustement se sont succédés, mais le problème est resté structurel.
Un problème d'équilibre des comptes, de moins en moins de rentrées d'argent, mais de plus en plus de dépenses, de plus en plus de bénéficiaires en effet, avec une population qui vieillit, donc des retraites à verser plus longtemps, et puis des soins à prodiguer, des soins qui coûtent de plus en plus cher. C'est tout simplement le résultat d'une société en mutation, avec un système, par contre, de sécurité sociale qui n'a pas le temps de s'adapter et qui ne peut pas s'adapter à une société qui mute très rapidement. Voilà. Et donc un système de financement qui n'est plus en accord avec la population, avec les demandes de la population, voilà, et avec l'état de la population. Un système, une population avec un taux de chômage aussi important ne peut plus supporter le poids de la sécurité sociale. Enfin, les actifs ne peuvent plus seuls supporter le poids de la sécurité sociale.
Et c'est ainsi qu'est né le fameux trou de la Sécu. En 1982, le sujet était déjà récurrent. Et dans le film électoral dont on a déjà pu entendre un extrait au tout début de cette émission, le Parti communiste donnait sa version du problème. Et vous allez le voir, cette version n'était pas très différente de celle qu'il défendrait certainement aujourd'hui.
Quand on entend parler la plupart du temps de la sécurité sociale, c'est quand même en termes de déficit. On parle de 17 milliards, de 20 milliards de francs. C'est surtout ça qui retient l'attention.
Bien sûr, le déficit est un problème, mais en tout cas, je crois qu'il ne faut jamais oublier le rôle, la mission de la sécurité sociale. Giscard avait réglé le problème, lui, d'une manière que nous ne pouvons absolument pas approuver. En faisant payer les salariés et les retraités, et en épargnant les patrons, et il avait réglé surtout en rationnant les soins. Hein, les budgets des hôpitaux étaient littéralement comprimés. On avait supprimé la couverture sociale aux chômeurs et il y avait ces fameux 170 francs par jour qu'on faisait payer aux personnes âgées hospitalisées en long séjour. Donc ce n'est pas la solution. Mais il faut savoir aussi que la sécurité sociale est victime de la politique d'austérité de la droite et du patronat. Des deux côtés, elle est victime en recettes en moins et en dépenses en plus. Par exemple, 2 millions de chômeurs, c'est 35 milliards en moins dans les caisses de la sécurité sociale. Les bas salaires, 1% de SMIC en plus ferait rentrer 300 millions dans les caisses de la sécurité sociale. Mais alors du côté des dépenses, on sait que les patrons, les trusts, les banques font des profits absolument scandaleux sur la maladie. Et ça, c'est la sécurité sociale qui les paye.
Quand on dit industrie pharmaceutique, on pense médicaments, c'est-à-dire on pense à quand même l'intérêt des gens. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Non, c'est pas toujours le cas, dans la mesure où on fabrique des médicaments qui doivent rapporter de l'argent. Les médicaments sont mis en commercialisation après une étude de marketing. Ça veut dire que si ce n'est pas suffisamment rentable, on abandonne purement et simplement la fabrication.
Il paraît qu'on fait des profits considérables au niveau des médicaments chez Roussel-Uclaf.
La vitamine B12, par exemple, qui est avouée à un prix de revient de 21 francs à la sortie de l'entreprise, et qui. 21 francs, oui.
Le gramme.
Le gramme, ouais. Et qui, en officine, revient à 1350 francs. C'est-à-dire le client l'achète 1350 francs. Ça veut dire un profit multiplié par environ 70.
Alors après, le trou de la Sécu, il faut savoir que c'est essentiellement la dette cumulée, hein, une dette qui se cumule notamment depuis les années 90. Cette dette cumulée a impliqué la création de nouvelles sources de financement. Ça a été le cas en 1991 avec la création par le gouvernement Rocard de la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG, qui a permis de financer certaines prestations, hein, qui vient au financement de la redistribution des prestations pour la maladie, la maternité par exemple.
qui est prise sur quel revenu ?
Alors, la CSG, elle est prise sur les revenus des salaires, enfin les salaires, hein, les actifs, mais également sur tous les revenus de remplacement, donc sur le RSA, sur les indemnités journalières, sur les allocations chômage et même sur les retraites, même sur les revenus de placement. Voilà. Donc, c'est vraiment une assiette très importante et qui couvre donc beaucoup plus de monde que les cotisations. Cette assiette, on la retrouve également pour la contribution au remboursement de la dette sociale, impôt qui sera créé en 1996 par les ordonnances Juppé, qui ne sert pas à alimenter les caisses de sécurité sociale pour les prestations, mais qui vient alimenter les caisses de la CADES, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale et qui permet de rembourser la dette.
Parallèlement à l'intensification de ce fameux trou de la Sécu, on a des discours à partir des années 80-90 qui commencent à s'en prendre à ceux qu'on appelle les assistés. Et de la notion d'assistance, on arrive à la notion d'assistana, qui est péjorative.
Oui, l'assistance, ce fameux mécanisme de protection sociale qui a beaucoup alterné avec l'assurance, ils ont toujours vécu hein, l'un à côté de l'autre, a été détourné finalement. On est passé de l'assistance à l'assistana. Alors certes, il y a des gens qui profitent du système, sûrement, il y en a toujours eu... Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a vraiment des gens qui en ont besoin. C'est un sujet polémique. Et c'est vrai qu'avec ce trou de la Sécu qui n'a pas arrêté de s'intensifier, on a cherché des coupables. On a cherché des coupables alors qu'il n'y en a pas forcément. Et que c'est juste... il faut s'inscrire dans une évolution économique, une évolution de la société qui a rendu ce trou finalement presque irréversible. Voilà. Un système qui est financé par des cotisations, quand le chômage augmente, bien évidemment qu'au bout d'un moment, les actifs ne peuvent plus seuls financer le poids de prestations qui deviennent de plus en plus importantes.
Pour finir, est-ce que les grands objectifs du CNR, établis pendant la guerre, on peut dire qu'ils ont été atteints ?
L'universalité, oui. L'unité, non. L'uniformité, il y a encore du travail. La solidarité, par contre, je pense qu'elle est là. L'attente, il faut la rappeler, parce qu'on a trop tendance à l'oublier. Sauf qu'il y a des grands événements, on l'a vu il y a quelque temps, qui permettent peut-être de la réveiller un petit peu. Mais c'est vrai qu'au sein de la protection sociale, on a tendance à l'oublier. Chacun regarde un petit peu de sa petite histoire, ses droits. Et oublie que le système est quand même relativement fragile et qu'il ne fonctionnera que si chacun y met du sien. Tous, on est tous acteurs de notre système. Ce système nous appartient et il devient ce que l'on en fait. Et c'est pour ça qu'à trop le critiquer, j'ai peur qu'on le tue un peu dans l'œuf. Vraiment, c'est un système à défendre. Nous, on milite dans ce musée pour défendre les valeurs de la sécurité sociale. Défendre ce système, c'est être un citoyen. Voilà. Et un citoyen solidaire.
Solidaire, on peut se demander si ce qualificatif peut s'appliquer à Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF qui, en 2007, dans la revue Challenge, s'attaquait au modèle social français en ces termes. Il s'agit aujourd'hui, disait-il, de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance.
Barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate para dignificarte, mi hermana.
Eveline Cornejo, la huelga, la grève. Pour conclure cette émission, après ce petit tour du côté du Chili, je vous propose d'aller à Grenoble. C'est là que travaille Philippe Varin. Chercheur au CNRS, il a fondé, il y a une dizaine d'années, l'Observatoire du non-recours aux droits et aux services sociaux. Il essaye de comprendre pourquoi des gens ne touchent jamais des prestations sociales auxquelles ils ont pourtant droit. Je suis allé lui demander ce qu'il pensait de la fraude sociale. Philippe Varin, on entend énormément parler de la fraude sociale, hein, qui est un peu le grand cheval de bataille de certains hommes politiques et certains journalistes. Voilà, avec des titres tels que « Fraudeur de la sécu, ceux qui ruinent la France »,« La France des assistés, ses allocs qui découragent le travail ». Qu'est-ce que ça vous inspire de lire des titres de journaux de cet acabit-là?
Le premier sentiment, c'est celui d'une exagération. Et c'est vrai que la question de la fraude sociale, et en particulier la fraude aux prestations sociales, hein, cette fois-ci, ce qui concernerait des populations bénéficiaires qui abusent des droits, me semble une question exagérée, même si cette réalité existe, évidemment, mais exagérée au regard d'autres types de fraudes. Hein, et là, il faut déjà distinguer la fraude aux prestations sociales, donc ce qui peut renvoyer à des comportements abusifs de la part d'assurés sociaux, d'allocataires, de différents usagers, de ce qui est aussi la fraude aux cotisations sociales, ce qui nous renvoie cette fois-ci à des employeurs. Sans parler d'autres formes de fraude qui représentent des montants bien supérieurs. Bon, tout ce qui est en fait la fraude à l'imposition. Et là, ça concerne d'autres acteurs socio-économiques, évidemment. Donc c'est, oui, un sentiment d'exagération, d'autant plus qu'on peut comparer, tout en étant prudent sur les données, ce qui relève de la fraude aux prestations sociales, qui est évalué dans un rapport parlementaire en 2011 à environ 4 milliards d'euros, à des montants de prestations sociales qui ne sont pas versées à des populations qui sont pourtant totalement éligibles. Et ces 4 milliards d'euros, finalement, il faut les mettre au regard des 5,3 milliards d'euros qui ne sont pas versés du fait de ce non-recours aux revenus de solidarité active. Il faut rapporter cela aussi aux presque 1 milliard d'euros de non-dépenses liées au non-recours à la couverture maladie universelle complémentaire et à l'aide à l'acquisition de complémentaire santé, etc., etc. Alors il est vrai qu'à l'Observatoire du non-recours, on a essayé de mesurer le phénomène du non-recours à différentes prestations. Le non-recours renvoie à des personnes qui, pour différentes raisons, n'accèdent pas ou n'utilisent pas les prestations financières ou non financières auxquelles elles peuvent prétendre. Donc en essayant de regarder au travers différentes études l'importance de ce phénomène du non-recours, en termes de population touchée, mais aussi de montants financiers, on s'aperçoit qu'il s'agit là d'un phénomène qui est bien supérieur à celui de la fraude aux prestations sociales. dans un ouvrage collectif qui a été publié à la Découverte en 2013, L'envers de la fraude sociale, on a pu estimer déjà un premier niveau de non-recours à plus de 10 milliards d'euros. Donc voilà, 10 milliards au regard des 4 milliards qui renverraient à la fraude aux prestations sociales. Sachant que ces 10 milliards d'euros, ce n'est qu'une première appréciation, parce qu'il faudrait porter le regard et l'analyse sur l'ensemble des prestations. Alors, ce qui est fait dans certains pays, pour dire que, par exemple, en Grande-Bretagne, le rapport entre, d'un côté, la fraude aux prestations sociales et le non-recours est un rapport de 1 à 10. Voilà. Et ça, c'est l'estimation qui est faite par l'équivalent de la Cour des comptes britannique.
Et voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. À la technique aujourd'hui, c'était Jean-Baptiste. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière et Juliette Palmade, dont c'était les grands débuts à la radio. Marie-Noël Battaglia a également donné un coup de main. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous apporter leurs connaissances et leurs témoignages. Quant à nous, on vous retrouve dans 4 semaines pile poil. D'ici là, vous pouvez aller jeter un œil sur le site internet de La Grenouille, sur la page de Ça vient pas de nulle part. Vous y trouverez tout un tas de liens et de références. À bientôt.
Émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.